Je reste insensible au ridicule d'écrire sur Venise, confiait jadis Paul Morand. S'il y a du ridicule à continuer d'écrire sur Venise, vous y êtes tout aussi insensible, Philippe Solers, puisque vos livres, vos personnages reviennent sans cesse hanter cette ville mémoire, cette ville cimetière, ce dortoir à fantômes dont le caractère lacustre, vaporeux et dantesque ne fait aucun doute. C'est à Venise que revenait à la fin du roman le héros de Portrait du joueur, paru en 84. C'est à Venise que vous revenez aujourd'hui dans votre nouveau roman Le cœur absolu, publié aux éditions Gallimard. J'ai même lu quelque part que l'écrivain Philippe Solers se fournissait en bouteilles d'encre exclusivement à Venise, ce qui ne doit pas être d'une commodité extrême. Plus vénitien que lui, tu te noies, enfin, à chacun sa lagune, mais qu'a-t-elle donc de si magique, Philippe Solers, l'encre vénitienne ?
Oh, ça c'est un rêve purement personnel, c'est je pense que, comme ça, il y a une sorte de magie dans l'air de Venise, dans l'histoire de Venise, et que, à travers les atomes, peut-être, on a un peu d'air de Venise dans l'encre que j'achète là-bas. Et c'est vrai que chaque fois que je vais à Venise, et j'y vais au moins deux fois par an, j'achète toujours mon petit flacon d'encre dans une petite librairie de Venise, que je rapporte précieusement à Paris, et c'est là que je trempe mon stylo pour écrire.
Mmh. Encore n'avez-vous pas toujours trempé votre plume dans la même encre ? Parce qu'il y a eu l'encre chinoise, il y a eu l'encre telqu'élisante, il y a eu l'encre marxoïde ou linguistique, il y a eu l'encre libidographe.
Non,
à un moment, vous avez même utilisé une encre qui refusait tout service dans la ponctuation.
Oui,
sympathique.
Ça, ce sont les façons d'écrire, ou les sujets, ou les différentes péripéties de l'écriture. Mais non, il y a très très longtemps que j'utilise que l'encre et celle de Venise. Alors évidemment, elle passe à travers tout. D'ailleurs, Venise est une ville qui passe à travers tout, que peut-être comme un romancier doit le faire, ou j'ai une idée comme ça un peu magique de l'écrivain qui traverserait absolument tous les sujets. Comme le corps traverserait l'histoire, Venise est une ville qui traverse tout. On a l'impression que c'est un radeau flottant à travers les siècles, et que rien n'arrive à entamer, ni même à détruire.
Mais là, dans ces diverses encres que j'évoquais, et bien entendu, j'en parlais de manière métaphorique, Philippe Solers,
bien sûr.
Vous avez faim d'ignorer.
Bien sûr.
Mais
le problème est de ne pas s'ancrer dans un sujet. Voilà.
Oui. Ah oui, c'est ça, c'est tout. Parce qu'il y a eu aussi l'encre alors, très classique, traditionnelle, du romancier bien.
Oui.
C'était il y a 29 ans, en 58, au temps gaulien de la DS-19, de la Margarine Astra, du premier Spoutnik, et Patrick Modiano ajouterait sans doute du Hula Hop. Le roman s'appelait « Une curieuse solitude ». Il se mérita d'ailleurs le salut d'Émile Henriot, qui tenait alors la chronique du Monde, et puis les encouragements émus de Mauriac et d'Aragon, excusez du peu.
Oui.
Votre œuvre commence là. Certains méchants estiment même qu'elle s'achève là.
Oui, puis les malentendus ont commencé à partir du moment où on publie un livre. D'ailleurs, publier un livre, il y a un bel aphorisme de Cioran qui dit « Publier un livre a les mêmes inconvénients qu'un mariage ou un enterrement ». Et en général, je crois que c'est un peu vrai, parce que publier, au fond, c'est un acte incongru. C'est comme si on demandait quelque chose aux gens en publiant. Mais il faut quand même s'y résoudre.
Un enterrement, vous dites ?
Un mariage ou un enterrement, peut-être que c'est la même chose. Enfin, pour la plupart des gens, en tout cas.
En tout cas,
pour moi.
Oui. Vous n'avez pas reçu les louanges de Mauriac et d'Aragon comme de manière
Écoutez,
très satisfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart des écrivains auraient reçu ça avec des rougeurs de premier communion. Eh bien, vous avez jeté l'encrier, jeté les compliments, renié le livre.
Oui, puis je l'ai réintégré.
Écrit Le Parc. Qui s'inspirait davantage de Robe ou de Grier que de Mauriac ou d'Aragon.
C'est ce qu'on a
C'était déjà le premier changement à vue dès le deuxième ou troisième livre.
C'est ce qu'on a dit. Moi, avec le temps, il faut du temps pour juger dans le recul, mais comme je suis pressé, j'accumule comme ça les erreurs, au fond, ou du moins les changements de pied. Avec le temps, j'ai l'impression que tout ça va prendre son unité, qu'on verra que c'est le même bonhomme qui a fait tout ça, et qu'on y retrouve sa marque à chaque instant.
Mais les critiques en sont encore loin d'apercevoir.
Oui. Il faudra peut-être 20 ou 30 ans. On verra, peut-être qu'il n'y aura plus de livres d'ailleurs à cette époque.
Mais il me semble que ces deux titres, Une curieuse solitude et Portrait du joueur, que j'emprunte l'un au commencement de votre carrière et l'autre à son extrémité récente, je ne parle pas de dernier souffle, mais d'extrémité récente, il me semble que ces deux titres vous résument tout entier. Au fond, est-ce que vous n'êtes pas un joueur et un joueur curieusement solitaire?
Oui, je crois que le jeu est la métaphore que je préfère au monde. Je pense
que le monde est un jeu, que tout est jeu. Et je suis toujours surpris, quand j'évoque le terme de jeu, de voir les associations immédiates que les gens font à ce propos. Le jeu les inquiète. Jeu, ça entraîne chez eux la réaction qu'il pourrait y avoir tricherie, mensonge, dissimulation, quelque chose d'oblique, quelque chose qui ne serait pas authentique, quelque chose qui ne serait pas vrai, qui ne serait pas frontal, quelqu'un qui réserverait des cartes, qui aurait des cartes dans ses manches. Donc, joueur, par une sorte de nihilisme acquis, ça évoque des idées négatives. Alors pour moi, au contraire, ça évoque le comble de la positivité.
Activité ludique et rien de plus.
Oui, mais enfin, l'art est un jeu, et bon, et nous serons sauvés ou par l'art ou par le jeu. Non, je pense, il y a des tas de penseurs du jeu, par exemple Nietzsche, que j'aime bien, et qui d'ailleurs trouvait que Venise était la ville suprême, la ville musicale, la ville où le jeu se laisse voir, justement, là, le carnaval.
Mais je disais, curieusement solitaire, et vous c'est la solitude
curieusement
qui
solitaire
là.
Parce que je crois que oui, on, si on est vraiment joueur, on est très seul, mais on n'est pas malheureux de l'être. Hein, si, curieusement, Une curieuse solitude, c'était un livre pas tellement mélancolique. Au fond, l'exergue exaltait la notion de bonheur. Hein.
L'exergue était le dernier aussi, Le cœur absolu.
Oui, c'est ça. L'exergue, c'était de Joubert. C'était bonheur. Le plus beau des courages, celui d'être heureux. Et au fond, vous voyez la cohérence, c'est qu'à travers tous ces épisodes, l'apologie du plaisir, du bonheur, etc., reste absolument constante. Donc c'est le côté épicurien des choses.
Mais cette solitude, votre solitude m'intéresse aussi, justement, peut-être par les brocards qu'elle provoque. Je suppose que si vous étiez aussi parisianiste, salonnard ou influent qu'on le dit, on vous ménagerait davantage. Or, la presse et la rumeur n'ont pas été tendres, et c'est le moins qu'on puisse dire, avec vos deux derniers livres, Femme et Portrait du joueur.
Parce que je crois que je dois donner le sentiment, en même temps d'être assez à l'aise lorsqu'il faut paraître dans le jeu social, et que d'autre part, je n'y appartiens pas vraiment. Je crois qu'il y a une réflexion comme ça dans Le cœur absolu. Un des personnages dit au narrateur, au fond, vous êtes pas vraiment, vous jouez pas vraiment le jeu, mais le jeu, le faux jeu, le jeu social. La société est un jeu, mais un jeu faux pour moi, c'est pas le vrai jeu. Donc je crois que les gens sentent spontanément un certain refus de s'agréger, un certain refus de se collectiviser, d'appartenir, d'être ensemble. Et comme je n'ai pas l'air de le prendre de façon mélancolique ou déprimée, ça les agace.
Est-ce que vous avez jamais renoncé à la littérature pour l'écriture, au récit pour le texte? Est-ce que le mot littérature a encore un sens
pour
vous?
Oui. Je ne suis que littérature.
Et pourtant, vous dites précisément dans Le cœur absolu, la littérature dépend des magazines.
Oui.
Et les magazines sont de plus en plus roses.
Oui, je ne suis que littérature et je crois qu'il y a de moins en moins de place, peut-être, pour la littérature. C'est-à-dire que nous sommes entrés, peut-être, probablement même, dans une époque où de stéréotypes obligés et de rapidité audiovisuelle, où il faut aller vite et où les photos, si vous voulez, ont plus d'importance que le texte. En tout cas, moi, maintenant, quand je lis des articles, je regarde s'il y a une photo plus ou moins grande parce que, finalement, l'article est moins important que la photo.
Alors, on retrouve dans Le cœur absolu le personnage de S point, l'initial, S comme sexe, comme
Superman.
Superman, et surtout S comme Solers, évidemment. Entendez l'écrivain étalon, n'est-ce pas, l'ethnologue infatigable du sexe contemporain. Et comme si d'ailleurs l'on pouvait douter que S fût vraiment vous, on trouve dans la biographie de S, puisqu'il est écrivain, deux titres qui sont justement Femme et Portrait du joueur, et qui ont d'ailleurs été dans le roman aussi, fort mal reçu par la critique.
C'est-à-dire, l'identité, c'est moi et c'est pas moi. Mon idée, c'est de faire des livres où le personnage qui dit « je » varie de l'un à l'autre. Par exemple, dans le dernier, Le cœur absolu, le personnage qui dit « je », le narrateur, donc moi si on veut, a quand même des particularités qu'il n'avait pas dans les précédents. Par exemple, il a des crises nerveuses constamment. Est-ce que j'ai ou non des crises nerveuses dans la vie? Je ne crois pas. Mais pour faire sentir ce que j'avais à faire sentir, il me fallait une certaine couleur de noir, parce que tous les plaisirs que je décris sont mis dans cette perspective assez tragique d'une sorte de maladie permanente, dont le livre serait la guérison. Enfin, on suit peu à peu la guérison du narrateur à travers le livre. Donc, vous voyez, là, c'est une couleur un peu différente. Et puis, les personnages rencontrés ne sont pas les mêmes, et les dispositifs ne sont pas les mêmes. Donc, ce sont des variations sur l'identité.
Oui, encore que c'est vraiment de vous
c'est de
dont
moi,
vous parlez, Philippe Solert, lorsque vous évoquez le pressbook de ce pauvre S. La presse a parlé en effet à son sujet, et en particulier à propos de ses deux derniers romans, Femme et Portrait du joueur.
Faut dire, quand on relit tout ça, c'est assez drôle, quoi.
Ah bah oui, alors,
c'est auto-ironique, en somme.
La presse parle de Diafoirus postillonnant, de Zézette mégalomane,
d'Andropause,
de vieillerie romanesque, de faux débauchés, d'imposteurs démasqués. Je me suis amusé à aller de Camelot hétéro, de pédantisme salace, d'auteur toc, ridicule, arrogant et bestial, et j'en passe, et de bien meilleur. Tiens, comme ce nombriliste jusqu'à la scoliose. Alors celle-là, c'est ma formule préférée.
Oui, oui. Elle a été
ne vous penchez pas trop.
Elle a été trouvée par un critique. La plupart de ces formules sont purement et simplement recopiées dans les articles qui m'ont été consacrés gentiment. Donc elles sont presque toutes vraies. En tout cas, les plus talentueuses sont vraies. Et moi, j'aime bien que donner du talent.
Nombriliste jusqu'à la scoliose, c'est joli.
Nombriliste jusqu'à la scoliose, c'est beau. Hein.
C'est très beau.
Bien. Je ne citerai pas l'auteur de cet article, mais je trouve que ça lui avait donné du talent. D'habitude, ce sont des articles assez ternes, assez académiques, et quand il s'agit de moi, brusquement, la plume s'enflamme, et il y a une sorte de sursaut pavlovien.
Alors là, vous prenez les paris pour le cœur absolu.
Ah oui, ça va être quelque chose.
Page 119, Monsieur S., donc écrivain, dit: si par hasard j'appelais un de mes romans le cœur absolu, vous verriez que tous les articles feraient immédiatement la plaisanterie. Le cœur absolu, le bide absolu, le con absolu, prends les paris.
Le cuir absolu, tout ça, vrai. Donc ça a déjà été fait.
Ça commence.
Il y a tout ça, ce sont des prophéties systématiques.
Mais visiblement, tout de même.
C'est un jeu, voyez-vous.
Oui, mais vous avez accusé le coup, on le ressent dans ce moment.
Oh, je crois que c'est dit de façon
assez... Ça vous a ému, quand même.
Non, je crois que... pas vraiment. Je trouve que... moi, je suis assez ethnologue, hein. J'observe les phénomènes. Ils m'amusent beaucoup. Et je crois que c'est un grand jeu, tout ça aussi. La critique, les écrivains, etc. Tout le monde invente. Alors c'est un jeu qui parfois peut être cruel ou méchant. C'est un jeu qui peut viser à détruire. Mais enfin, on peut s'en sortir sans cesse par des pirouettes.
Il y a un personnage qui s'adresse à vous, enfin pardon, à S, dans le cœur absolu, pour lui dire: écoute, mon vieux, les nouvelles sont plutôt désastreuses pour vous. Hein. Le sexe est fini, c'est éteint, épongé, escamoté, démodé. C'est la new chastity, le retour des sentiments.
Ben oui, hein? Ça, c'est un Américain d'ailleurs, qui est là, producteur de télévision, de cinéma, et qui explique à l'auteur, en effet, qu'il a devant lui, donc moi si vous voulez, que on est en pleine régression et en plein ordre moral. Mais vous savez, alors là je crois que c'est une possibilité très sérieuse, parce qu'en général l'Amérique a un petit peu d'avance sur ce qui se passe en Europe, et on a vu ce phénomène se développer massivement aux États-Unis, à cause, on le sait bien, à la fois d'une sorte de changement politique global, et aussi à cause des grandes menaces, des malédictions qui pèsent sur le monde social.
Vous nommez le sida.
Le sida, bien sûr. Et je trouve alors là, j'essaye d'être le romancier qui parle de cette mutation que nous vivons. Parce que je crois qu'on vit une très grande mutation sociale, de ce point de vue. D'une part, il y a eu d'abord le grand événement qui est tout simplement la procréation artificielle. Hein. Ça, je trouve que ça va engendrer, si j'ose dire, des transformations d'imaginaire vraiment très très profondes. Hein. Le fait que l'humanité puisse se reproduire sans passer par l'acte sexuel, mais de façon quasiment chimique, je crois que ce n'est qu'un début, qu'on en verra de vertes et de pas mûres de ce point de vue. Donc j'essaye d'être très attentif à tout ce qui ressort dans l'imaginaire social autour de ça. Et puis deuxièmement, il y a, comme par hasard, presque en même temps, dans la foulée, si je peux dire, la malédiction de la maladie sexuelle, c'est-à-dire le sida. Et vous savez, comme Saint-Simon disait, chaque époque a son mode de crime, ou chaque époque a son mode aussi de maladie. Hein, de même qu'il y a eu des épidémies de peste qui ont ravagé comme ça l'Europe ou le monde, de syphilis ou de malédiction de choléra, etc. La peste restant la chose la plus marquante, probablement, encore que la syphilis ne soit pas mal non plus. Je crois qu'on est dans une époque où la nouvelle maladie, avec tout ce que ça comporte de sacralisation, de peur, de refoulement, etc., est en train de se déclencher. Et donc aux États-Unis, je vous assure que la situation de ce point de vue est assez étrange, c'est-à-dire retour du conformisme moral, des images pieuses de la société qui doit se tenir tranquille, etc. etc.
Donc encore que,
tout ça m'intéresse.
Encore que à d'autres époques, la vérole ou la syphilis fussent portées parfois avec ostentation par les écrivains.
Oui.
Le sida, on ne peut pas dire que ce soit...
Ostentation, vous savez, je ne sais pas, Stendhal, Nietzsche, Baudelaire, quand même, c'était quand même, au 19e siècle, c'était pas quand même très, très, très bien vu. Mais non, je crois que le sida avec ostentation, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que ça ébranle très profondément le corps social. Et vous savez, un romancier ou un écrivain, doit être, enfin doit, il n'y a pas de devoir, mais enfin, il me semble qu'il ne peut pas faire autrement que d'être sensible à ces glissements de terrain, parce que ça va affecter
oui, mais alors, ce qui est étrange,
tous les rapports humains.
Ce qui est étrange, le sida, c'est une parenthèse, parce que ce n'est pas du tout le thème du cœur absolu.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, le cœur absolu, c'est le livre de l'après-sida, c'est-à-dire, justement, par exemple, le fait de fonder une petite société secrète où les gens se connaissent et commencent
à... le bonheur pour but.
Voilà, c'est au fond une façon de répondre à cette espèce de chaos dans lequel nous entrons, et pourquoi pas, après tout, c'est une forme de jardin réservé, voilà.
Oui, mais ce qui est étrange... pour en finir sur ce thème de vos changements et des attaques dont vous êtes souvent l'objet, depuis en tout cas vos deux ou trois derniers livres, et ce dont...
Si j'avais changé, on ne dirait pas autant que j'ai changé, d'ailleurs.
Bah oui, d'ailleurs, on vous reproche, c'est curieux, parce qu'on vous reproche de ne pas changer, alors que vous n'avez jamais cessé de vous renier d'un livre à l'autre.
Voilà.
Mais ce qui est étrange tout de même, et ce dont vous êtes peut-être au fond la victime, c'est la faculté que vous avez d'absorber sans cesse le discours de vos procureurs et le discours aussi de la société du moment. Mmh. Non certainement par masochisme, mais
par
certainement pour rester dans le coup, vaille que vaille, pour ne rien perdre de l'effervescence de l'époque, votre œuvre, pardonnez-moi ce mot pompeux, dut-elle en pâtir.
Il y a un type qui faisait ça, vous savez très bien, qui reprenait toujours le discours de ses procureurs et qui le reprenait dans la dialectique même de la formulation qu'ils avaient. C'est un bonhomme qui s'appelle Socrate, qui ça commence par un S aussi, qui est un type très, 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 très intéressant et qui avait justement, qui a inventé cet art-là. C'est-à-dire de toujours avoir une sorte de reprise non violente du discours de l'autre, comme ça. Et moi, je trouve que ça soulage.
Oui.
Moi, et peut-être les autres aussi, d'ailleurs.
Et puis, vous reprenez ces discours, mais sous forme aussi d'abandon personnel. Et je suis certain que si l'on revient à une société puritaine, eh bien, vous abandonnerez demain le sexe, comme vous avez abandonné naguère Mao, comme vous avez abandonné tel quel ou la linguistique, autant où vous trouviez...
Non, c'est peu probable, je vais vous dire. Il y a un truc...
Saussure à votre pied, si j'ose
dire. Non, je me sers des choses quand elles sont un peu dérangeantes, ou quand elles... là, je pourrais m'expliquer sur chacun des points. Je suis pour les délires qui dérangent, pas pour ceux qui dictent la loi.
Oui. Alors, le projet de cet écrivain, S, au début du livre, c'est une adaptation cinématographique qu'on lui commande de la Divine Comédie de Dante. Alors, disons que c'est une coproduction américano-japonaise. Alors, dans le genre solaire, c'est évidemment, c'est-à-dire Béatrice en geisha ou bien en travesti, avec arrière-plan bouddhiste et documents d'archives sur Hiroshima, et avec sans doute Meryl Streep dans le rôle-titre, c'est tout à fait ça. Mais la Divine Comédie, on devrait plutôt parler, d'ailleurs vous parlez de divin bordel, c'est plutôt ça d'ailleurs le projet.
Au fond c'est la même chose, oui d'ailleurs Dante est très cru à un moment donné, il compare l'Italie de son temps au fait que c'est devenu un immense bordel, un bordel. Mais là l'intention c'est l'écrivain qui n'est pas moi là visiblement, puisque j'ai jamais fait ça, non,
oui.
J'ai jamais été contraint de faire ça, mais je me mets dans la situation où je suppose que vraiment, je sais pas, pour gagner ma vie ou pour d'autres raisons, je serais obligé de faire l'adaptation de la Divine Comédie. Voilà, un thème romanesque.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passerait ? Ben évidemment, puisque le cinéma et la télévision sont des contraintes très, 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 très massives, sur le plan financier, évidemment. Sur le plan aussi de la simplification.
Je veux dire,
sur le plan de la simplification. Sur le plan de la simplification. Donc, voilà un des thèmes du bouquin.
Oui.
C'est un type, au fond, qui aurait une culture assez approfondie, qui connaît très bien Dante ou Homère, et qui se trouverait dans la situation de devoir adapter ça au cinéma ou à la télévision. Or, pour le cinéma et la télévision, il faut faire gros.
Oui.
Il faut faire vraiment tout à fait dans le mille. Et donc, on n'a pas de temps à perdre dans des problèmes d'érudition, par exemple.
Oui,
donc, ça crée une sorte de comique, en somme, de tension et de comique.
Et puis surtout, dans un premier temps, il y renonce, en tout cas.
Il n'y arrive pas, le pauvre.
Il n'y arrive pas. Se dit, plutôt que de faire cette adaptation, ben, je vais aller la vivre, au fond,
ça
là-bas.
Ça le barbe.
Je vais aller vivre là-bas, sur place.
Oui.
La chose sur place, à Venise, où avec quatre amis, il va fonder une société secrète qu'on va appeler la Société du Cœur Absolu.
Voilà.
Alors, je crois qu'il faudrait qu'on lise, parce qu'il y a des statuts dans cette société.
Voilà, absolument, il y a des règlements.
Il y a des règlements. Alors, article 1, la société a été fondée, à 8 octobre 84 à Venise, donc par très beau temps. Bon, on passe là-dessus. Article 2, la société a pour but le bonheur de ses membres.
Oui.
Par bonheur, on entend dans l'ordre qu'on veut le plaisir et la connaissance.
Voilà.
Bon. Par membre, vous ne dites pas d'ailleurs ce qu'on entend par là.
Non, il me semble que ça va de soi.
Oui, et d'ailleurs, les articles ultérieurs sont très nets à cet égard. Article 3. Chaque membre est seulement tenu de n'être pas ennuyeux.
Voilà.
Hein? Alors l'ennui est banni de cette société.
Surtout ne pas s'ennuyer. Voilà, moi comme je vis avec un certain sentiment d'ennui dans la société où nous sommes, j'essaye de produire une contre-société où on ne s'ennuierait pas, où ce serait un principe vraiment. Il faudrait absolument ne pas s'ennuyer.
C'est ça. Alors quand on va rencontrer quelqu'un, on lui dira par exemple, j'espère que je ne vous dérange pas, c'est prévu dans l'article 3 des statuts.
L'article 3.
Si on vous répond pas du tout, c'est signe qu'on dérange.
Voilà.
Et si on vous répond sûrement pas, c'est qu'on est bien vu.
Voilà,
bien
alors, il y a tout un jeu là-dedans, c'est-à-dire que pas du tout, ça veut dire qu'on dérange, oui. Remarquez, ça serait merveilleux si tous les gens se comportaient comme ça, non ?
Oui, ce serait certainement...
C'est une façon de dire qu'on est dérangé, pas du tout.
Donc,
c'est élégant et en même temps, c'est dissuasif.
Article 4, oui, c'est au fond le phalanstère, hein, c'est le...
Oui, alors encore que le phalanstère, oui, il y aurait des divers. Enfin, on ne voit pas, mais j'y ai pensé, oui, oui.
Il faut dire que S et quatre amis. Trois femmes et deux hommes.
Ah, il y a trois femmes et deux hommes, et ça c'est un règlement de la société, il y aura toujours une femme en plus. Hein, parce que les hommes ensemble ont tendance à devenir ennuyeux. Mais oui, qu'est-ce que c'est que la société ? C'est toujours des hommes en train de faire, je ne sais pas moi, des armées, des écoles. Non, là, une femme pour moi, en plus, implique qu'il y aura un certain jeu, une certaine liberté dans la société.
Et c'est sans doute plus élégant qu'une femme en moins.
Voilà.